Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez plus d'un million à voir, entendre ou même soutenir les parents jusqu'au bout. Ils se sont installés, présentés dans les studios Tout le monde en parle, ont interpellé le docteur Barrette pour obtenir un programme d'aide adéquat pour les parents d'enfants lourdement handicapés. Aujourd'hui, les parents peinent toujours. On prend des nouvelles d'ailleurs à l'émission de Mélanie Castonguay, cofondatrice du groupe et maman de Léonie. En table ronde, aujourd'hui, on rencontre des personnes qui ont donné vie à Vision Carrière, un programme d'exploration en emploi pour des jeunes aveugles. En chronique, Sonia Boucher, sexologue à domicile, et Aube Caron qui nous fait voyager. Et dans un instant, protecteur du citoyen du Québec, sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le protecteur du citoyen est un ombudsman impartial, indépendant, qui a comme mission d'assurer le respect des droits des citoyens et des citoyennes dans leurs relations avec les services publics. Donc, évidemment, le protecteur du citoyen, ou souvent la protectrice, il faut l'avouer, peut non seulement traiter les plaintes, mais œuvre aussi avec un pouvoir de recommandation et peut déployer des enquêtes en plus d'informer le public. Bon. Ce n'est pas un petit mandat, c'est pour ça qu'on s'intéresse de près à son travail et on a l'occasion de la recevoir aujourd'hui. Donc, la protectrice du citoyen, Marie Rinfrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Racette.
Bonjour, merci d'être là.
Ça, c'est un plaisir.
Donc, vous avez proposé un rapport il y a peu de temps qui concerne les services à la population, de l'éducation à la santé, en passant par les services de détention. J'osais vous demander, comme protectrice du citoyen, c'est quoi l'enjeu qui vous préoccupe le plus à la lumière là, de votre analyse pour l'année?
Écoutez, je vous dirais, ce qui est central pour moi, c'est qu'à l'intérieur de toute réforme envisagée dans nos services publics, puis vous savez, les services publics doivent évoluer, mais dans tous ces changements-là, donc que ce soit une réforme, un changement de formulaire, un changement de pratique dans un ministère, il faut toujours mettre le citoyen au cœur de ce changement-là et s'assurer de l'accompagner pour qu'il puisse obtenir le service auquel il a droit.
Donc votre travail au-delà des...
Pour moi, c'est ça le fil d'Ariane là, de mon travail.
OK. Donc, votre leitmotiv, c'est effectivement le citoyen, peu importe les réformes, les changements. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup ces dernières années. Mais pour les auditeurs et les auditrices là, qui s'adresseraient à vous, comment ça fonctionne, en fait, quand ils reçoivent des services qui sont insatisfaits ou encore qu'un service ne leur est pas rendu?
Bien simplement, moi j'inviterais tous les gens qui nous écoutent ce midi à communiquer avec nous. Il y a un numéro de téléphone sans frais, le 1-800-463-5070. Et les gens qui ont...
Internet?
Qui ont Internet, ma foi, aller sur notre site.
Protecteur du citoyen,
protecteur
tout simplement.
Protecteur du citoyen en un mot, .qc.ca. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a pas de gouv dans notre adresse courriel parce que on ne relève pas, je ne relève pas du gouvernement. Nous sommes une institution... clairement, nettement indépendante, autonome, et dès le moment où une personne entre en relation avec un service public, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, que ce soit avec un ministère, un organisme ou en santé, services sociaux, vit une insatisfaction ou des difficultés, a le sentiment de ne pas avoir reçu le service auquel il a droit, il s'adresse à nous, nos services, il n'y a aucune formalité. Les services sont gratuits et c'est complètement confidentiel.
Très heureux d'entendre tout ça. Écoutez, vous offrez donc un service indépendant. Les gens doivent se sentir en sécurité quand ils ou elles vous appellent. Je vous poserai quand même la question parce que vous avez parlé des réformes un peu plus tôt et de l'impératif de maintenir le droit des citoyens malgré ces réformes. Ça fait quand même plus de 3 ans là, qu'on vit des réformes dans le réseau de la santé. Vous avez mentionné des accrocs particuliers liés aux droits des personnes en situation de handicap, des usagers dans plusieurs secteurs. J'aimerais que vous nous les rappeliez.
Bon, écoutez, rapidement, puis malheureusement, ça sera pas exhaustif. C'est les principaux écueils qu'on a soulevés dans le cadre de notre rapport d'activité. Alors, il y a le soutien à domicile, hein, bien sûr, ou dans le cadre de la réforme actuellement, nos grands établissements, donc les CIS et les CIUS, sont encore à tenter d'harmoniser leur offre de services sur le plan régional. Et ce que nous, on constate quand on va en enquête, c'est qu'il y a un nivellement vers le bas de l'offre de services.
Donc, ça, c'est très clair.
Le panier de services est diminué ou encore les heures de services définies pour tel type d'activité est réduit sans en informer nécessairement la personne qui a droit à ces services.
Je ne veux pas vous mettre en opposition avec le ministre de la Santé, mais c'est quand même contraire à son discours. Vous, comment vous arrivez à constater cette situation de nivellement vers le bas des services?
Écoutez, les gens nous appellent. Une personne handicapée communique avec nous pour nous dire que du jour au lendemain, elle a vu son nombre d'heures de services de soutien à domicile coupé parce que, par exemple, elle recevait moins de 4 heures de service. Alors, là, nous, on part, on fait des vérifications, donc on appelle et on débarque, on fait des visites non annoncées. On a, vous savez, dans le cadre de la loi sur le protecteur du citoyen, nous avons les pouvoirs de commissaire enquêteur.
Ah oui, voilà.
Ce sont donc des pouvoirs, je vous dirais, importants et qu'on utilise avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de jugement, mais qu'on n'hésite pas à utiliser lorsque des informations sont manquantes ou qu'on constate, qu'il faut aller voir des visous ce qu'ils pensent.
On voit bien comment vous agissez, disons, sur le plan individuel, mais il faut quand même relever que vous constatez une augmentation des plaintes, notamment dans le domaine de la santé.
Oui.
Comment vous réagiriez si, par exemple, j'ose dire par exemple, mais c'est peut-être pas exactement ça, un regroupement de comités d'usagers invitait ces comités d'usagers à ne pas porter plainte au commissaire à la qualité des services et éventuellement même à votre attention?
Écoutez, moi, je le redis, il faut absolument que les gens, indépendamment des regroupements, puis on travaille avec tout regroupement, toute association qui s'occupe des personnes handicapées, des personnes âgées, des jeunes en difficulté, parce que c'est pour nous aussi des gens qui soutiennent les personnes. Mais indépendamment des associations qui les représentent, c'est important que les personnes communiquent avec nous pour qu'ils s'assurent que les services auxquels qu'ils reçoivent sont équivalents aux services auxquels ils ont droit.
Parce que vous devez reconnaître, puis vous l'avez sûrement documenté, il y a une peur des représailles chez les usagers. Je pense entre autres aux personnes âgées qui ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Quand il y a des organismes, là, peu importe, ce sont lesquels, qui les invitent à ne pas porter plainte, vous seriez davantage du côté pour dire qu'ils doivent persister et porter plainte.
Écoutez, à cet égard-là, si une personne craint à ce point de déposer une plainte chez nous, donc de nous demander d'intervenir, toute personne peut déposer un signalement. Auprès de nous et ce faisant, toute personne peut nous faire une demande, ne pas la signer, mais ce qui est contenu dans sa demande est suffisamment préoccupant en ce qui nous concerne pour qu'on pousse plus loin l'évaluation de cette demande-là et qu'à terme, on débarque dans un contexte de signalement parce que nous avons un pouvoir d'enquête de notre propre initiative.
Vous pouvez vous auto-saisir d'une enquête.
C'est ce qui fait que dans les exemples de ressources intermédiaires qui ont été fermées cette année à la suite des interventions du protecteur du citoyen, parce que les services offerts côté était préjudiciable mm-hmm. pour les personnes qui y habitaient. Et, ben ma foi, tant le curateur public que les établissements ont constaté qu'effectivement, les ressources n'étaient pas appropriées. Donc, elles ont été fermées. C'est à la suite de signalements que nous avons eus où on est allé effectivement en visite non annoncée.
Parfait.
Et on évalue la situation. Donc, mm-hmm. il faut vraiment que les gens aient confiance
en
notre institution mm-hmm. parce que c'est votre institution.
Exactement. Hein? Vous êtes indépendante.
Ça s'appelle le protecteur du citoyen.
Exact.
C'est votre institution. C'est mm-hmm. l'institution de l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec. Mm-hmm. On est là pour veiller à ce que chacun et chacune d'entre nous, je m'inclus dans ça, obtenions les services auxquels nous avons droit.
Et on entend bien et on vous assure sur la page de l'émission, on mettra les liens pour que les gens se sentent à l'aise d'y aller. En terminant, depuis les années, votre prédécesseur le disait aussi, depuis les années, il y a des problèmes en soutien à domicile. Matt Ménard, des organismes de la société civile, vous ont invité à faire une enquête plus systématique sur le soutien à domicile. Comme vous l'avez fait là, récemment pour le secteur de l'éducation. Est-ce que vous allez pouvoir mener une telle enquête prochainement?
Et là, je vais vous répondre de manière très prudente.
Okay.
Nos enquêtes sont menées privément.
OK. Même quand c'est davantage collectif?
Même quand c'est systémique, parce mm-hmm. qu'on ne veut pas alerter les gens qu'on serait en train de faire une enquête sur un sujet X, puis que par conséquent, on nous cache des éléments ou qu'on se mette tout bonnement à mieux agir. Alors, puis ça aussi, c'est prévu dans notre loi.
Oui.
On a cette obligation de conduire nos enquêtes privément et au moment opportun, on signifie les résultats de ces enquêtes.
Très content de vous avoir dans ce paysage québécois. Les citoyens sont en bonne main grâce à votre service. Je rappelle d'ailleurs qu'il est possible de le visiter sur Internet, protecteurducitoyen.qc.ca. Ça vous appartient. Merci infiniment, Marie Rinfrette. Longue vie à votre protectorat.
Merci infiniment.
Au revoir.
Merci, M. Rassette. Au revoir.
Se battre pour tous les parents jusqu'au bout. Je parle de Mélanie Castonguay, mère de Léonie, qui est sa jeune fille lourdement handicapée. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles. Je pense d'ailleurs qu'elle a peut-être besoin de nous à nouveau. Bonjour, Mélanie Castonguay.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Les gens se rappellent de vous. Vous étiez parmi ces mères qui ont mené ce mouvement. Là, vous y aviez passé presque 3 ans de votre vie. Beaucoup d'eau coulée sous les ponts. Comment ça va aujourd'hui pour vous, la mère de Léonie?
Ça va quand même bien. Évidemment, il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis, dont la nouvelle prestation là pour les enfants nécessitant des besoins exceptionnels là, qui a été approuvée par le gouvernement.
Effectivement.
Donc, de ce côté-là, c'est une grande bataille gagnée.
Bon, partons de ça. Donc, on se met un sourire au moins pour beaucoup de parents. Ça va bien. Puis, comment va votre petite Léonie?
Elle va quand même bien. Son état, évidemment, en vieillissant, l'état se stabilise. Donc, ça va quand même assez bien de ce côté-là aussi.
Mm-hmm. Bon, ben, il y a au moins de la motivation, mais je veux seulement rappeler aux gens, et c'est entre autres de ça dont vous allez parler aujourd'hui, que c'est très complexe rendre accessible une maison pour son enfant en situation de handicap. Ça a été votre cas. Vous avez... expliquez-nous ce que vous avez dans votre maison, ce que vous avez dû faire pour que la vie à vous et Léonie soit plus simple?
Bien, en fait, depuis un an et demi, la situation maritale ici a changé. Donc, je me suis séparée, comme plusieurs couple là, ouais. avec une situation d'handicap lourd.
Oui, malheureusement, donc, la majorité des cas, des parents, d'enfants, jusqu'au bout, on va dire ça comme ça, vivent ça, hein? Ouais.
Oui, exactement. Mm. Donc, lors de la séparation, je devais quitter, moi, le 1er octobre l'année dernière. Mm. Donc, on a vendu le condo, évidemment. Puis, je voulais racheter une maison en banlieue là, pour pouvoir, évidemment, accueillir Léonie. Ouais. Je m'en occupe à temps plein. Mm-hmm. Donc, que ça soit beaucoup plus adapté et adaptable.
Ouais.
Donc, j'ai voulu acheter une maison. Et là, c'était un timing qui était juste pas bon parce que moi, les nouveaux propriétaires entraient le 1er octobre là, au condo et donc je devais quitter. Et moi, la prestation pour les enfants nécessitant des besoins exceptionnels rentrait à la fin octobre.
Et là-là.
Donc, et donc c'était juste un mauvais timing là, de un mois, en fait. Mm. Donc, fallu que je prenne un co, des deux co-signataires, en fait, pour signer pour la maison.
Oui.
Parce que je passais pas à cause de mon revenu. Mm-hmm. Mais comme la banque m'avait dit, ben écoutez, dans un mois, on va pouvoir faire une cession d'hypothèque, là, ça va être facile avec vos nouveaux revenus là, qui vont mm-hmm. rentrer. Entre-temps, en fait, les lois à la SCHL ont changé.
Ah oui? Ouais. Donc, ça, on parle des lois fédérales ici, là.
Oui, exactement. Donc, okay. les lois à la SCHL ont changé. Donc, ça a été augmenté. Donc, disons que le taux à la banque, là, on va faire des chiffrons, là, mais de 2% okay. d'intérêt. Ils doivent faire quand même les calculs sur 4,99% mmh. parce que dès que tu passes à la SCHL, ils demandent que la personne passe avec ce taux-là, même si à votre banque, ce n'est pas ça.
Donc, en gros, ils ont resserré les critères. Là, c'est devenu beaucoup plus exigeant pour vous d'avoir cette maison.
Exactement.
Okay.
Donc, ça ne fonctionnait plus. Fait que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est bon, on pourrait peut-être attendre un an, vu qu'on le sait que tu es à 98% propriétaire de la maison et que tu payes ouais. tout seul.
Ouais.
On va faire peut-être monter un dossier, là, tu sais, dire, bon, écoutez, madame, son crédit est bon, elle paye tout, blablabla, etc. Ouais. Fait que c'est ce qui a été fait. Donc, un an plus tard, ben écoutez, là, j'ai pas le choix d'enlever les co-signataires. Premièrement, il y avait ma sœur qui était dessus, puis elle s'est séparée, doit racheter une partie de sa maison. Donc, elle-même ne passe pas si elle est propriétaire d'une autre maison.
Ouais.
Donc, je retourne à la banque de toute manière pour ça. Et ils me disent, ben ça fonctionne toujours pas. Premièrement aussi, il y a aussi à la banque qui ont changé, à chaque année, ils changent des trucs, et ils considèrent simplement 50% de nos revenus.
Ouais.
Donc, malgré le fait que je reçois quand même des montants là, pour les pensions puis les prestations...
Mm-hmm. Ils ne veulent pas considérer cet argent-là dans le calcul?
Non, okay. Ben en fait, calcul juste 50% en ouais. disant, ben ce montant-là est pour votre enfant.
Ouais.
Fait que là, j'ai expliqué à la banque, j'ai dit la prestation pour les parents qui ont des enfants qui nécessitent des besoins exceptionnels. En fait, nous, on s'est battu justement pour que ça soit un revenu à
oui.
nous, parents.
Oui, c'est ça. Oui.
Fait que là, tu essaies d'expliquer ça aux banques que c'est pas une prestation pour l'enfant, mais bien un revenu pour le parent.
Mais donc, ça s'est pas encore rendu. Comme il s'agit d'un nouveau programme, les institutions bancaires se sont pas ajustées puis accueillent pas ça comme un revenu des parents. C'est ça qu'on comprend. Donc, on a créé une aide, mais il y a une injustice qui subsiste. Puis, j'aimerais ça qu'on explique aux gens, cette maison-là, elle est nécessaire pour vous deux. En quoi elle est nécessaire, cette maison-là? Donnez-nous des exemples dans votre maison qui sont essentiels à la vie de Léonie.
Bien, quand j'ai acheté la maison ici, j'ai pris tout en considération l'handicap. Le but, c'était ouais. d'aménager puis de plus bouger de là
ben oui.
Jusqu'à la fin.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, j'ai acheté un plein pied. J'ai acheté en banlieue. Ça a déjà été compliqué là, d'acheter parce que les maisons sont tous rendues chères. Là. Je pense mm-hmm. que tout le monde le sait.
Ben oui.
Mais les propriétaires qui avaient la maison ici ont baissé le prix de presque 40 000 $ parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour notre histoire. Puis ce monsieur-là avait hérité de son papa. Mm. Donc, tu sais, on a une maison plein pied. Il n'y avait pas beaucoup de marche. Quand je suis rentrée ici, j'avais aucunement pris l'adaptation de domicile. Donc, la demande était déjà en cours.
C'est ça, puis ça arrive souvent, ça, les gens comme vous qui, bon, à une certaine époque, vivent pas sous le seuil de la pauvreté quand même, ils ont un revenu décent. Comme c'est tellement long avec le système public, ils profitent pas des adaptations auxquelles ils ont droit. Puis là, ben ça fait que vous avez dû engranger de l'argent. Là, vous avez dû dépenser de l'argent vous-même pour l'adaptation. Là.
Oui, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde sait ça, là, surtout vos auditeurs, là, tu sais, quand on veut adapter, bon, il y a un montant fixe là, attribué.
Oui.
Puis souvent, ça couvre pas tous les frais. Puis je sais pas si pour tout le monde, ça a été comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'était comme ça.
Non, ça couvre jamais tous les frais, je vous le dis.
C'est ça. Non, c'est ça, ça couvre pas tous les frais. Puis en plus de ça, en tout cas, comment ça s'est passé quand ils sont venus, c'est un peu eux qui décidaient là, de ce qu'ils allaient faire. Donc, s'ils n'étaient pas adaptés en avant, ils devaient adapter pour rentrer et sortir. Ouais. Après ça, ben là, c'est selon eux, leur exigence. Là, on fait la salle de bain ou on fait en arrière.
Mais ce qu'on entend, là, c'est que ça a été une aventure. Là. Mais vous avez réussi, après tout ça, à avoir la maison qu'il faut pour que vous et votre fille soyez bien.
Oui. En 8 mois, il y a la rampe avant qui a été faite. Donc, la maison est accessible. À l'intérieur, la salle de bain, elle a été faite. En entier. Ça, c'est le pad qui a fait la salle de bain. En avant, la rampe, c'est des gens qui suivaient la page de Facebook de Léonie puis moi, qui se sont mis ensemble. Donc, on a eu des dons de matériaux, des dons de bras.
On le rappelle d'ailleurs, Facebook pour Léonie, si vous voulez retrouver un peu comment ça se passe. Donc,
puis,
sur Facebook pour Léonie. Oui.
Puis, fait qu'on a fait la rampe, on a fait la salle de bain. Puis, j'ai fait la demande de rêve d'enfant pour avoir la piscine pour Léonie parce que c'est ce qu'elle aime le plus au monde, être dans l'eau.
Ouais.
Fait que tout ça a été fait en 8 mois.
Wow.
Donc, je suis installée enfin, puis on le sait tous que adapter, c'est un gros morceau. Là. Très gros morceau.
Et on a peu de temps ensemble maintenant, mais une chose est sûre, c'est que vous avez l'endroit qu'il vous faut. Vous êtes à risque de le perdre en janvier 2018.
C'est ça? Parce qu'ils vont resserrer les critères. Là, évidemment, je ne passe pas. On a parti un GoFundMe, en fait, pour les dons. Parce qu'en fait, il ne faut pas passer par la SCHL. C'est ça le problème.
Donc on invite tout de suite les gens. On invite tout de suite les gens à vous soutenir. On va sur gofundme.com/la-maison-de-Léonie. On l'ajoute sur notre page, bien sûr. On espère que les gens vont vous aider. Merci pour tout, Mme Castonguay. Collectivement, on vous doit, comme à d'autres femmes qui se sont battues jusqu'au bout, ce programme pour les enfants. On doit vous aider maintenant.
OK, bien merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions. Et donc, Mélanie Castonguay, qui est la maman de Léonie, maman jusqu'au bout, et puis on l'aide. GoFundMe, la maison de Léonie. Avec nous, Sonia Boucher, notre sexologue à domicile, qui aujourd'hui ose parler d'émancipation. Hein? C'est une belle entrée en matière, ça?
Oui, c'est parfait, ça. Bonjour, Benoît, ça va bien?
Bonjour, Sonia, ça va bien, oui. Alors, émancipation, c'est évidemment important dans notre histoire. On parle d'émancipation sexuelle dans les années 70, mais c'est d'autres choses dont vous voulez nous parler aujourd'hui, là.
Oui, donc pour aller plus loin que l'émancipation sociale à laquelle tu fais référence,
oui,
je vise l'émancipation sexuelle des personnes.
Voilà, donc les personnes elles-mêmes, là, en tout respect de leurs droits.
En tout respect de leurs droits, mais surtout dans une optique de participation sociale des personnes, d'intégration.
OK. Bon, bien, la table est mise. Alors, qu'est-ce que vous entendez exactement comme émancipation sexuelle par l'intégration?
Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas définir l'émancipation sexuelle en quelques minutes. On pourrait le faire en 2 synthèses, mais si on veut donner une vision générale, qu'est-ce qu'on veut dire par émancipation sexuelle? C'est-à-dire que les personnes s'approprient leur sexualité et sont capables de grandir là-dedans, de s'épanouir. Donc, ils ne sont pas enfermés dans une espèce de représentation sociale qu'on leur donne.
Ils ne sont pas esclaves là, d'une sexualité. Ils choisissent, ils la font grandir, comme vous le dites. Ils s'épanouissent, au fond, grâce à cette sexualité-là.
Oui, c'est un peu le contraire du capacitisme là, dont on parle de plus en plus souvent, c'est-à-dire de ne pas penser qu'une personne, parce qu'elle a tel ou tel handicap, doit nécessairement avoir telle ou telle forme de sexualité.
Oui, effectivement, souvent on pense à leur place qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas de sexualité, les personnes en situation de handicap.
Absolument.
Mm-hmm. Et donc, est-ce que vous avez des exemples de manières, j'oserais dire, culturelles, de changer cette perception-là ou cette situation-là?
Oui, bien, d'un point de vue culturel, effectivement, l'émancipation, c'est un peu de renverser les représentations sociales que je te parlais.
OK. Donc, on sort des préjugés.
Oui, on défait les préjugés. On démonte une diversité.
Oui.
Donc, le faire de façon culturelle, ça peut être via le théâtre, le spectacle. Même, j'ai vu le spectacle d'humour, la danse. C'est-à-dire, finalement, de se représenter un droit à la sexualité, mais aussi une sexualité différente et diversifiée.
Ah bon, bien. Donc, il faut d'abord qu'on montre que ça existe, parce que les gens ne s'en doutent pas. Hein? Et pour ça, tous ces moyens-là existent, comme le théâtre, les représentations, etc. Comment on pourrait faire ça aussi autrement?
Ben, d'une façon, dans des projets culturels, mais collectifs.
Oui.
Donc, c'est-à-dire de regrouper des personnes qui ont envie de passer un message. Okay. Et ça rejoint l'émancipation parce que les personnes, non seulement, elles s'approprient leur propre vision de ce que c'est que la sexualité, mais en plus, après, elles le partagent.
Ouais.
Au collectif, dans des événements, par exemple, des événements sociaux.
Mm-hmm. Donc, on les garde pas juste pour soi, mais on communique avec les gens au travers de ça.
Oui, c'est un peu une logique socio-constructiviste. Donc, ça veut, on se définit la sexualité,
okay.
Puis en plus, après, on l'exprime.
Bon.
Donc, on partage cette vision-là pour que les gens s'enlèvent un peu l'idée de la pauvre personne handicapée qui a nécessairement besoin de faire appel, par exemple, à la prostitution pour pouvoir s'épanouir.
Donc, en fait,
c'est de montrer d'autres formes.
On ne fait pas de la sexopop ici, on fait de la sociopop. Ça veut dire que quand vous dites constructivisme, là, on va le dire aux gens, c'est que la société construit des manières de représenter. Puis nous autres, on ne s'en rend pas compte, mais on rentre là-dedans puis on s'imagine que c'est ça la réalité. Hein, c'est ça?
Absolument.
On pourrait dire ça comme ça. Donc, le but, c'est de changer ça, c'est de proposer d'autres manières de présenter la sexualité des personnes handicapées.
Oui, mais par les personnes.
Oui, OK, c'est important.
Oui, oui.
Donc,
ça, c'est très, très important pour rejoindre la fameuse émancipation sexuelle qu'on rejoignait tantôt. Donc, que les personnes soient impliquées pour dire non, attendez, moi, ça se passe pas comme ça, voici comment je vois ça.
Donc, dans le fond, mais moi, je vois un parallèle. Les femmes ont vécu la même chose. Il y a eu des docteurs qui ont parlé de la sexualité des femmes. Puis quand les changements sont arrivés, c'est parce que les femmes parlaient elles-mêmes de leur sexualité.
Absolument, un excellent parallèle.
Bon, ben c'est ça le parallèle. Alors, personne en situation de handicap, dites, promenez-vous, racontez vos histoires, on a besoin de diversité. Et grâce à des gens comme Sonia Boucher, on y arrive. Merci beaucoup, Sonia Boucher.
Merci, Benoît, toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. Rappelons qu'elle est sexologue à domicile. On peut l'appeler pour nos besoins et l'entendre à cette émission.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Alors, rebonjour à vous tous et toutes. Vous le savez, le travail, c'est quelque chose qui fait peur. C'est une étape normale de la vie. Mais il existe des gens qui y croient, peu importe qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit une personne aveugle ou non. Et j'ai une chance extraordinaire de tous les avoir autour de nous. Donc, on parle de vision carrière. Hein, c'est ça qui vous réunit aujourd'hui. Avec nous, d'abord, Marie-Hélène Normando, qui est directrice générale de Montréal Relève. Bonjour, Madame Normando.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Avec grand plaisir. Au téléphone, Michel Poulain, qui est directeur général de la Fondation En Vue, qui est associé de très près à ce projet.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Et ces personnes qui ont travaillé au quotidien ou qui ont vécu l'expérience du programme Vision Carrière, d'abord, je m'adresse à Sophia Soto, qui est une jeune participante au stage dans le cadre du programme Vision Carrière.
Bonjour, heureuse d'être là.
Ben oui, très content de vous avoir à table. Et une intervenante, je pense que vous avez apprécié hein, dans cette histoire-là qui est importante dans ce stage-là. Nathalie Thibault, qui est intervenante, responsable du programme Vision Carrière à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Bonjour, Madame Thibault.
Bonjour.
Bon, tout le monde est présenté, ça c'était le premier objectif, mais je m'attendrais d'abord à ce que Sophia Soto, notre invitée, a vécu. Vous êtes une jeune femme de 16 ans hein, qui étudie à l'école secondaire Louis Riel de Montréal. Vous êtes une personne aveugle.
Oui, ben malvoyante. J'ai un résidu visuel, mais oui, c'est loin d'être 100%.
OK. Donc, il y a une place pour la vue, mais donc, vous êtes dans la grande famille des personnes qui ont de basse vision ou qui sont aveugles ou amblyopes.
Tout à fait.
Bon. C'est pas de ça dont on va parler tout de suite. En fait, je vais d'abord vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez eu envie de participer à ce stage-là dans le cadre du programme Vision Carrière?
Bien, déjà, avec une basse vision, on a déjà un défi de plus. Donc, moi, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, avoir quelque chose à mettre dans mon CV.
OK.
Parce que je trouve que c'est important de s'ouvrir des portes là, pour avoir une chance, une plus grande chance plus tard d'accéder au milieu de travail, ouais. à l'emploi et de déjà avoir une idée de ce que je veux faire mm-hmm. dans la vie. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de participer à ce programme-là. Ça pouvait, en plus, avec des spécialistes qui pouvaient nous encadrer et mm-hmm. adapter si jamais c'était nécessaire. Donc, moi, j'étais vraiment enthousiaste à participer à ça.
Bon, on sent beaucoup de détermination, en tout cas, quand vous parliez. Est-ce que vous avez eu besoin d'un stage pour vous prouver que vous pouviez faire ce que vous vouliez?
Bien, en réalité, d'une certaine façon, oui, parce que je voulais voir si ma basse vision avait un quelconque effet, un impact, si ça restreignait un peu ce que je pouvais faire. Et j'ai réalisé que non, et que j'ai aussi réalisé que c'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie.
Ah ouais.
Donc c'est.
Ben il faut le dire, vous avez fait un stage, et je vous envie, je dois vous avouer, vous avez fait un stage à Equitas,
oui.
en droit de la personne.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous avez fait exactement?
En réalité, moi, mon stage, c'était vraiment de l'observation. Je rencontrais les différents professionnels de l'organisme, ils me présentaient leurs programmes, mm-hmm. j'assistais aux rencontres.
Parce qu'il faut le dire, Equitas, ce qu'ils font dans la vie, c'est éduquer les gens aux droits.
Oui, c'est vraiment ouais. de l'éducation aux droits internationaux dans différents pays mm-hmm. et ici aussi au Canada. J'ai également eu à faire une petite recherche là, pour les aider dans un programme.
Oui.
J'ai fait une recherche parce qu'un de leurs programmes vise à inclure les personnes handicapées quelconques dans leur formation, parce qu'ils veulent aussi former les personnes avec des handicaps dans leur formation au droit. Mm-hmm. Et mon but, c'était de rechercher les différentes adaptations qu'on pouvait inclure afin que les personnes soient intégrées, que ce soit des logiciels pour la basse vision mm-hmm. ou des logiciels pour les personnes en situation de surdité. Mm-hmm. Donc,
Sophia, c'est heureux parce qu'on sent que vous avez apprécié le stage, mais vous avez pu développer l'accessibilité d'un organisme en même temps.
Aussi.
Au travers de ce stage-là. C'est fascinant. Écoutez, je dois avouer que j'entends souvent la crainte chez les jeunes en situation de handicap d'accéder au marché du travail. En tout cas, vous avez beaucoup de détermination, c'est ce qu'on entend, mais je me retournerai à ce moment-ci vers Nathalie Thibault, qui est intervenante et responsable du programme Vision Carrière à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Vous vous êtes rencontrés, hein, Sophia et vous, dans le cadre de ce programme-là.
Oui.
Est-ce que vous entendez ça souvent de la part de jeunes à l'entrée d'un stage comme celui-là, autant de détermination?
Non, ils sont pas toujours aussi déterminés que Sophia. Parfois, ils ont des craintes, ouais. parfois, ils sont un peu gênés, sont un peu timides. Mais ils ont en même temps le goût d'explorer. Donc, on sent quand même toujours une ouverture à faire partie du programme Vision Carrière.
Bien, de la curiosité au minimum et de l'envie. Mais vous le dites, il y a des craintes, de la timidité. Quel autre obstacle on entend souvent chez les personnes, les jeunes?
Parfois, ils ont peur de ne pas être acceptés dans le milieu de travail. Mm-hmm. Ils ont peur aussi que les gens savent pas, leur posent trop de questions ou ne sachent pas comment s'adresser à eux. Mm-hmm. Donc, il y a ces craintes-là, des fois, qui persistent.
Ah oui, bon. Puis, en quelques mots, comment ça s'est passé avec Sophia? C'est quand même une semaine là, comme stage. C'est pas des années, mais ça avait l'air d'être très nourrissant.
Ah oui, c'était incroyable. Moi, ça m'a permis de prendre confiance. J'ai également eu une équipe incroyable. Les gens étaient très ouverts d'esprit. Aussi, moi, j'ai aucune limite là, pour les questions. Moi, j'adore que les gens posent des questions parce que ça leur permet de savoir et parfois de briser certains préjugés qu'ils peuvent avoir d'emblée. Mm-hmm. Donc, moi, c'était vraiment une belle expérience que je répéterais.
Alors, je suis persuadé que je vais vous entendre plus tard en défense de droit. C'est très heureux de vous entendre. Alors, au téléphone, on a avec nous Michel Poulain, qui est directeur général de la Fondation En Vue, et aussi en studio, Marie-Hélène Normandeau, qui est directrice générale de Montréal Relève. Alors, si je comprends bien, vous êtes en partie les deux organismes, deux chefs d'orchestre de ce programme qui s'appelle Vision Carrière. Est-ce que je me trompe?
Oui, ben non, vous vous trompez pas, effectivement. Okay. Effectivement, oui. Avec Marie-Hélène et toute l'équipe de Montréal Relève, c'est un programme absolument extraordinaire, vous savez, et je n'exagère pas en disant que en quelque part, je pense qu'on sauve des vies. Les témoignages que nous recevons de la part des parents des jeunes qui font ces stages sont absolument dithyrambiques et hallucinants parce que, je vais vous donner un exemple, cette année, on a eu la cérémonie de remise de diplôme, si vous voulez, pour les jeunes qui ont fait
les stagiaires.
Stage.
Ah, oui.
Et il y a un papa qui me confiait que son jeune de 16 ans, les parents ne savaient pas quoi faire avec, finalement, parce que, compte tenu de sa déficience visuelle, il ne savait pas quelle orientation se donner et il n'avait pas de projet ou enfin d'objectif dans sa vie. Et le stage qu'il a fait lui a redonné une seconde vie. Ouais. Et là, maintenant, l'enfant est beaucoup plus en mesure de s'orienter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses possibilités? Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce programme-là. Il y a un aspect humain absolument fantastique, mais je suis convaincu que Marie-Hélène va corroborer mes dires.
Ben, en fait, si je comprends bien le nœud de l'histoire, est-ce que c'est vous, Fondation En Vue, qui êtes allé vers Montréal Relève pour bâtir ce programme?
Non, tout a parti de l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Ah, okay,
l'Institut Nazareth et Louis Braille qui a approché Montréal Relève. Mm-hmm. Et nous, on a été approchés finalement par Montréal Relève pour financer ce programme-là. Uh-huh. Et on est extrêmement fiers de financer ce programme-là. Mm-hmm. Cette année, c'était la troisième année et on compte bien entendu poursuivre là pour les prochaines années.
Ben, enfin, on vous souhaite déjà bonne chance. Marie-Hélène Normandeau, qui est directrice générale de Montréal Relève, vous êtes un peu une entremetteuse dans cette histoire, avoir trouvé les fonds, les expertises, les personnes. Est-ce qu'on pourrait décrire ça comme ça?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est la beauté d'un projet comme celui-là, c'est qu'il se targue de réunir à la fois des stagiaires qui ne sont pas encore en formation spécialisée, donc on présume aussi une belle main-d'œuvre avec des compétences extraordinaires, et le milieu, le marché de l'emploi. Depuis une vingtaine d'années, Montréal Relève a développé comme ça un réseau de gens super favorables à l'exploration de carrière, à l'intégration aussi des personnes. Et ici, on a une jeune avec nous qui est vraiment la preuve qu'avec souvent un minimum d'adaptation, c'est extraordinaire les belles histoires d'intégration que nous avons. Et les organisations qui sont ciblées par Montréal Relève, d'ailleurs, sont très favorables à l'accueil de personnes avec ou sans handicap, parce que ce n'est pas le handicap que Montréal Relève met en lumière, mais la compétence et la détermination des jeunes
et le potentiel,
et le potentiel comme main-d'œuvre.
Mais je dois quand même vous poser la question. Vous œuvrez avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui a tendance à rallier des PME.
Oui.
Là où on rallie les PME. On le sait qu'il y a beaucoup de barrières à l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises, parce que bon, faut rappeler que notre chère Sophia est allée dans une ONG. Souvent, les ONG ont déjà une préparation, je dirais, dans les idées pour l'inclusion. C'est pas difficile de convaincre les PME d'être inclusives pour les personnes aveugles, entre autres, les personnes qui ont de bas vision?
Je vous dirais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on a rencontré.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a un travail de fond, de sensibilisation, de préparation et d'accompagnement pour les organisations, que celles-ci soient des grandes organisations, par exemple Pratt & Whitney, ou des plus petites organisations avec quelques employés. Je pense qu'il suffit de démontrer aux gens que quand il y a une préparation en amont et un cadre qui est bien formalisé, bien compris de part et d'autre, l'aventure va bien aller.
Ouais.
Et le stage d'une semaine, il est super tentant pour les entreprises parce qu'il est, somme toute, de courte durée. Et il permet à chacune des organisations qu'on a sollicitées, d'ailleurs, de démontrer ou même de figurer où on en est rendu, finalement, comme Québécois, en termes de réelle intégration sur le marché de l'emploi.
Mmh. Alors, test de nos aspirations sur l'inclusion.
En se disant, on s'essaye pour une semaine, on va voir cette fameuse politique-là ou ces appréhensions-là, parfois, qu'on a comme collègues. Est-ce qu'on peut les surmonter? Et souvent, le stage d'une semaine est une super belle carte de visite pour dire, voilà, en termes de compétences, c'est tout à fait comparable, parce que je vous dirais que ce qui ressort vivement de projets comme Vision Carrière, c'est la personnalité des gens, c'est leur habileté de contact social, le développement humain qui se produit aussi à travers ça, comme Michel disait si bien, qui finalement prend le dessus du pavé. Parce que surtout, je dirais, en 2017, comme je vous dis, et ça, on se fie beaucoup sur l'Institut pour nous guider là-dessus, les adaptations, somme toute, peuvent être assez réduites dans beaucoup de professions et de métiers. Et ça permet également aux jeunes stagiaires de figurer, comme Sophia le disait, bien, est-ce que mon plan A, c'est un plan réaliste? Est-ce que je suis dans un secteur dans lequel je vais pouvoir œuvrer?
Soyons honnêtes, la force de notre période contemporaine pour les personnes aveugles qui souvent qui nous écoutent à l'émission, c'est qu'on passe souvent par les technologies de l'information.
Totalement.
Et je suis sûr que Sophia pourrait nous sécuriser là-dessus. Un ordinateur, là, c'est très utile quand on est une personne aveugle pour lire, par la synthèse vocale, accéder à des outils de grossissement, etc.
C'est très, très, très utile. On peut fonctionner comme une personne voyante, là, aussi rapidement, aussi efficacement, avec la synthèse vocale ou la plage tactile, les deux intégrés, on peut fonctionner aussi efficacement qu'une personne voyante.
Puis donc, c'est ce que les employeurs-employeuses, j'ai féminisé les employeurs, parce on parle presque
mais vous êtes
des
féministe,
femmes,
c'est parfait, on vous sais. Adore.
Mais donc, les employeurs-employeuses, voilà, c'est la formule consacrée, ils voient, là, au fond, sans jeu de mots, que les personnes aveugles, avec quelques outils d'appoint, là, qui ne sont pas très coûteux, pas très nombreux, ils peuvent accéder au potentiel.
Il n'y a pas grand secteur qui a échappé, dans le fond, aux stagiaires. Ils ont été dans beaucoup de secteurs, les jeux vidéo, les droits de la personne, ils ont été en environnement, en santé. Donc, c'est assez étonnant. Parce que...
Il n'y a pas de profil là,
pas vraiment. C'est assez atypique. Puis on essaie, nous, de se coller le plus possible aux aspirations des jeunes et des adultes qui participent au projet Vision Carrière. Puis somme toute, de se dire, bien ça, c'est peut-être un plan A. On va aller l'explorer, on va figurer. Puis peut-être qu'on aura un plan B, un plan C aussi à te proposer.
Ouais.
Les gens qui accueillent les stagiaires, c'est des mentors qui sont dévoués aussi. Qui ont envie de transmettre quelque chose que j'appelle la passion pour ce qu'on aime. Qui, eux, des fois aussi, ont eu des parcours atypiques, pas toujours faciles. Puis bon,
Ils arrivent à faire les comparaisons.
Oui, on profite
parce que,
de cette
Mais ça, on adore cette idée-là dans le grand champ de l'inclusion, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est pour la vie une personne vulnérable ou vulnérabilisée. On est un peu tous à risque de l'être. La vision, ça se perd au cours de la vie. Je veux juste le rappeler aux gens qui nous écoutent. Puis donc, ça nous permet d'en prendre conscience. Vitement, là, en une semaine, c'est quoi les bénéfices tangibles, à part évidemment ces passeurs-là que vous avez trouvés, ces passionnés qui vont continuer à propager la bonne nouvelle? C'est quoi les autres bénéfices que les entreprises ont trouvés?
Les entreprises, c'est très certainement d'être mises en contact avec une main-d'œuvre potentielle. Je ne vous cacherai pas que, comme filiale d'une chambre de commerce, une de nos préoccupations, c'est une meilleure adéquation entre la main-d'œuvre et puis les emplois qui vont être bientôt disponibles. Et on ne rajeunit pas éventuellement. Nous aussi, on prendra nos retraites. Il faut qu'on trouve des gens passionnés pour nous remplacer. Alors, y voilà un potentiel très clair, en plus d'un cheminement personnel. C'est ça, d'un cheminement personnel puis d'une expérience extraordinaire, bien entendu.
Bon, très bien. Michel Poulain, qui est avec nous de la Fondation En Vue. Vous avez financé, là, bien sûr. C'est quoi votre rôle dans tout ça? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs à Fondation En Vue pour que les gens le sachent?
Notre mission est de supporter l'Institut Nazareth et Louis Braille dans ses programmes, dans ses projets, au niveau de la recherche également. Donc, il y a bien entendu différents services à l'Institut, tant au niveau de l'enfant-jeunesse que pour les aînés. Alors, notre mission, c'est cela, c'est qu'on supporte financièrement des programmes, des projets qui sont mis de l'avant. Et bien sûr, on parle ici, bien entendu, de réadaptation. Donc, tout est en ébullition, ben, comme un peu partout de toute façon, mais l'aspect technologique fait en sorte que aujourd'hui, avec les iPhones, avec les GPS, alors le déplacement et l'autonomie des personnes se fait beaucoup plus facilement. Alors nous, on travaille beaucoup avec l'Institut Nazareth et Louis Braille sur des programmes pour que les gens demeurent le plus autonomes possible. Il y a aussi un autre élément qui est très important, ce sont les bourses d'études. Alors pour les
vous offrez des bourses d'études spécifiquement.
On offre des bourses d'études pour les personnes en déficience visuelle qui, parce que l'autonomie des individus passe par l'éducation.
Oui.
Alors, à chaque année, on a un programme très important de bourse d'études et pour participer à la sélection des boursiers, nous avons des histoires absolument extraordinaires de détermination. Et moi, ça fait seulement près de 2 ans maintenant que je suis à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et ce qui me frappe, c'est la détermination des gens qui sont en déficience visuelle et qui veulent vivre, qui veulent avoir une participation sociale complète. C'est extrêmement stimulant pour nous, les gens dits normaux ou voyants, si je peux m'exprimer ainsi, de voir ces gens-là qui ont un potentiel énorme, qui veulent exploiter ce potentiel-là. Mm-hmm. Alors, nous, on les supporte au niveau de l'éducation, au niveau des bourses. Cette année, on a même ajouté un volet bourse professionnelle.
Ah, bon.
Alors, on a des bourses au niveau du secondaire, collégial, professionnel et universitaire. Mm-hmm. Alors, on touche vraiment tous les
secteurs. Spectre. Et on puis, est-ce que vous allez boursier... poursuivre le programme Vision carrière, j'imagine que c'est là qu'on s'en va.
Absolument.
Ah, bon.
Et je vous dirais qu'on a même un boursier qui fait des études en boucherie.
Ah oui.
Boucher. Et nous, on était un petit peu inquiets avec les couteaux, mais semble-t-il que ça fonctionne très, très bien. Alors, vous voyez que tout est possible et c'est notre mission. On essaie de donner notre coup de main. Et le programme de Vision Carrière est un exemple vraiment très, très concret que ces gens-là peuvent avoir une participation sociale complète, peuvent...
Et vous faites...
On ouvre des horizons, finalement.
Vous ouvrez les horizons et vous faites le lien parfait pour que je me retourne vers Sophia Soto, qui a participé à ce programme, qui est en fait l'incarnation concrète de ce que vous faites tous aujourd'hui, puis que vous souhaitez continuer de faire. Je vous donnerai le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes personnes qui ont une déficience visuelle, qui veulent embrasser le monde professionnel, le monde du marché du travail?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est les peurs qui vont empêcher que les barrières se brisent, et c'est vraiment en explorant ce qu'on aime, en prenant les défis, en prenant la vie comme ça vient, qu'on va finir par briser les barrières, qu'on va intégrer les milieux de travail et que les employeurs vont se rendre compte qu'on peut être aussi efficace, qu'on a autant de potentiel qu'une personne voyante et qu'il faut juste, des fois, quelques petites adaptations ou juste...
un peu d'ouverture et de dialogue aussi.
Oui,
c'est
aussi,
ça.
De la communication, c'est très important. Une bonne équipe de un bon cadre de travail, mais je pense que c'est possible. Puis il faut suivre ses rêves, il ne faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on a une déficience. Donc il faut vraiment aller au bout des choses.
Bien, vous donnez envie de rêver. Merci beaucoup, Sophia Soto. Je rappelle que vous êtes une jeune femme qui avait participé à ce programme Vision Carrière et puis en plus, qui avait fait ça à Equitas. On vous adore déjà pour ça.
Ah ben merci à vous de m'avoir reçue.
Nathalie Thibault, intervenante responsable du programme à l'Institut Nazareth et Louis Braille, merci.
Merci.
Marie-Hélène Normandeau, directrice générale de Montréal Relève.
Qui ne rêverait pas d'avoir Sophia dans son équipe de travail en 2025.
C'est déjà fait, le placement.
Le pari est lancé.
Le pari est lancé. Et pour que l'initiative continue, heureusement, il y a la Fondation En Vue avec son directeur général, Michel Poulin, qui peut vous aider. Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Il y a encore un peu de bruit, puisqu'il y avait beaucoup de monde à l'émission, et ça colle bien avec l'ambiance habituelle que nous dépeint notre chère Aube, chroniqueuse Destination. Bonjour à toi.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous apporter un peu de soleil, là, parce qu'on en a besoin. C'est ça.
Je vais vous amener voyager un peu partout aujourd'hui.
Oui. Donc, Aube Savant, vous avez 4 blogs à peu près à nous présenter pour être bien informé vers les découvertes accessibles.
Oui. Tout d'abord, il y en a un d'une jeune Belge, Blandine. C'est un blog donc qui s'appelle « 1000 découvertes sur 4 roulettes ». Son site web, par contre, s'appelle 1000découvertes4roulettes.com. C'est une jeune femme qui a véritablement la bougeotte. Elle est en fauteuil depuis quelque chose comme 3 ans, 4 ans à peu près. Donc, elle avait déjà beaucoup voyagé avant. Évidemment, son désir est resté aussi vif. Elle vient d'accomplir un tour du monde.
Elle a fait un vrai tour du monde?
Oui.
OK, donc ça veut dire qu'elle a touché tous les continents.
Exactement.
Oh là là.
Un an, toute seule.
Incroyable. Donc, c'est une femme à découvrir. Et on rappelle son site web, on le retrouve à www.1000découvertes4roulettes.com. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Bon. Un autre site web, cette fois-ci, une petite affaire française?
Oui, tout à fait. Andy Lol, ça a été fondé par deux frères, dont un a une dystrophie musculaire. Les deux voyagent toujours ensemble parce que Rudy a besoin d'aide dans ses soins quotidiens. Et c'est un site pratico-pratique. On y trouve énormément d'informations très détaillées. C'est vraiment plus un site web qu'un blog. C'est axé vraiment sur l'accessibilité. Il y a même une carte accessibilité qu'ils ont créée qui permet de voir en un clin d'œil à quel point sont accessibles les villes qu'ils ont visitées.
OK. En un clin d'œil, comment vous dites? On retrouve ça, il y a comme une géolocalisation des différents lieux? Ça ressemble à quoi?
Oui, en fait, c'est une carte du monde, tout simplement, un plan. Et puis, il y a une légende de vert foncé qui est très accessible à rouge qui est avec une accessibilité qui est particulièrement difficile. Et donc, ça permet d'avoir en un coup d'œil, par exemple, Bruxelles, c'est une ville qui est, paraît-il, très difficilement accessible, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. Et puis, donc, ça permet d'avoir un petit coup d'œil très, très, très rapide, en fait.
Et donc, juste être certain, j'imagine que c'est écrit, ça, sur le site, là, même si, parce que des fois, on ne voit pas le vert, vous voyez.
Non.
Mais c'est bien écrit, c'est bien détaillé.
Et c'est très détaillé,
bon,
vraiment, là.
Content d'entendre ça. Alors, ensuite, Curb Free with Corey Lee.
Oui.
Oui.
C'est un gars des États-Unis qui se déplace en fauteuil motorisé en raison d'une amyotrophie spinale. C'est quelqu'un qui est vraiment renommé dans le milieu. Il est très connu. Il a une excellente réputation. Il y a 50 000 personnes qui le suivent.
Il a même été invité à Kéroul récemment. À Kéroul. C'est comme une destination. A été invité par Kéroul.
Oui, exactement. L'été dernier, ils ont effectué une tournée de presse. Donc, ils ont invité Kéroul à venir visiter certaines régions du Québec. Et il en parle sur son blog.
Bon.
Donc, c'est vraiment super intéressant, avec des photos. Où on le voit même avec Isabelle Ducharme, qu'on connaît bien.
Ben oui.
Donc,
qui va mieux, d'ailleurs. On rassure les gens là, qui ont vu qu'elle a eu quelques problèmes de santé. Elle va mieux là, maintenant. En tout cas, j'en profitais pour le dire. Donc, on envoie, évidemment, sur la page, on va l'inscrire, mais on envoie à curbfreewithcoreylee.com en anglais. On le mettra en français sur notre site. OK. Et avant de se quitter, un 30 secondes pour un petit dernier, toujours par un Américain.
Oui. Donc, wheelchairtravel.org.
Oui.
C'est une grande source d'information aussi. Il y a une foire aux questions.
Ah, ça, c'est bien.
Et il y a une particularité, c'est-à-dire que pour chaque destination, il a noté les attractions touristiques, les hôtels, les transports en commun, les taxis accessibles, trottoirs, une note sur 5.
Pour vrai, donc, tous les aménagements, mais pas juste là, l'hôtel, sa toilette ou sa salle à manger, mais vraiment pour se rendre de l'information sur l'accessibilité.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est heureux, ça. Puis, il a fait beaucoup de voyages aux États-Unis, mais on répertorie aussi d'autres continents, là.
Ah oui, il est allé en Europe, en Asie, en Afrique. Il a fait 27 pays en tout.
Bon, bon, bon.
Ben, c'est pas rien.
C'est pas rien. Et comme d'habitude, c'est le fun de vous recevoir, Observant. On rappelle que les quatre sites web seront au bas de la page si vous nous écoutez par Internet. Merci beaucoup pour ce détour plein de destinations accessibles.
Grand plaisir, comme toujours.
Donc, à bientôt. Alors,
à bientôt.
Je vous le rappelle encore une fois, les informations sur les intervenantes, les intervenants et les organismes qui viennent ici sont sur notre page Accès libre. Elle est repérable sur canalm.vuesetvoix.com. On va aussi ajouter les autres liens là, concernés par l'émission et évidemment celui du protecteur du citoyen. Je veux seulement rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est dans votre droit de porter plainte, n'ayez pas peur. Évidemment, il y a quelques modalités, là, mais en les appelant, vous pouvez savoir comment faire, comment procéder. Aujourd'hui, je ne vais pas vous renommer tout le monde, mais je suis très heureux d'avoir eu autant de gens à l'émission, mais je veux aussi souligner Christiane Campagna qui a fait nos communications, Maurice Bolduc qui a fait la mise en onde et Anne-Laure Janson qui est toujours aussi spectaculaire à la recherche. Ici Benoît Racette, on se reparle la semaine prochaine et d'abord, c'est un scoop, c'est une émission d'1h30. Hein? Oh, y en a encore plus, c'est excellent. Et ça sera diffusé pour la première fois le lundi. On commence la semaine avec un accès libre. Ici Benoît Racette.